Vous écoutez Radio Ndekeluka, il est 13h, l'heure de suivre le journal, une présentation de Claire Assamba Dinga et bienvenue Bilou. Claire, bonjour.
Bonjour à vous Bertie, Ghislaine Amazoda, bienvenue à tous dans cette édition, les titres. La situation humanitaire reste préoccupante à Gadi après des violences des hommes armés dans la localité. Le député de Gadi appelle le gouvernement et les acteurs humanitaires à l'aide. À la une également, le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la lutte contre la méningite. Le thème retenu cette année est « Vaincre la méningite ». À l'international, le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche en France. Plus de 48 millions d'électeurs doivent départager Marine Le Pen et Emmanuel Macron. En sport, football fin cet après-midi au stade Barthélémy-Bogondin, des matchs en retard du championnat de la Ligue de Bangui en première division. Espoir Club de Bégoua affronte les Anges de Fatima. Nous sommes deux pour vous présenter cette édition. Bienvenue Bélo, bonjour.
Bonjour Claire Assamba Dinga. À la une de cette édition, les déplacés internes de Gadi vivent une situation humanitaire précaire après des violences perpétrées par des hommes armés dans la région il y a 2 semaines.
Tout à fait, plus de 1500 ménages ont quitté la zone. Johnson Soinkosi Wandui, député de Gadi, appelle au gouvernement et les acteurs humanitaires à voler au secours de cette population en détresse. Il est avec Igor Diaskin Senapai.
C'est un calme précaire qui est là, mais la majorité des populations de la zone se trouvent présentement à Zawa et à Yaloké. Donc, on ne peut pas dire que les populations se battent librement à leur activité par peur d'être retrouvées par les groupes armés qui errent dans la brousse. Là, je vous dis, la situation humanitaire est grave. L'état des gens là-bas ou l'état de la situation là-bas, vraiment, c'est pas à décrire ici. Dans la sous-préfecture de Gazi, il y a 2 communes. La première commune, c'est la commune de Topia. Et là, il y a la gendarmerie là-bas, bien sûr. Mais ils sont au nombre de 3 ou 4 comme ça. Donc, ils ne peuvent pas couvrir la grande superficie des 2 communes. L'autre commune, je suis député, l'autre commune, c'est mon collègue qui est député là-bas. Donc, il y a 3 gendarmes et ils ne sortent même pas de Gazi par peur aussi d'être pris par les rebelles. J'en profite de votre micro pour relancer encore mon cri de détresse aux autorités d'envoyer immédiatement les FACAS sur place pour que la paix revienne dans la sous-préfecture de Gazi. Pour dire aussi aux organisations non gouvernementales ou aux personnes de bonne foi de venir en aide aux populations qui sont meurtries et qui sont au niveau des Zawa sans rien. Et au niveau de alloqué aussi.
Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la lutte contre la méningite.
Oui, bienvenue. Cette journée vise à sensibiliser le public sur la méningite. Le thème retenu cette année pour la commémoration est « Vaincre la méningite ». Selon l'OMS, une campagne de sensibilisation devait être lancée à travers le monde pour préserver la propagation de cette maladie.
À Kakabandoro, centre de la RCA, plus de 1420 foyers des retournés des villages Ngreva, Ipamia et Nzindi à 28 km de la ville ont reçu ce vendredi des semences et outils pour leurs travaux champêtres.
Il s'agit d'un don de la sous-délégation de CICR à Kagabandoro. Jean-Pierre Ngarasuma était présent lors de la distribution suivant son reportage.
À l'appel des noms, chaque famille bénéficiaire sort et reçoit 2 sacs de graines d'arachide, 2 du maïs et 2 houx. Cette assistance est un coup de pouce pour les retournés de Ngreva et Xindi qui ont tout perdu pendant les crises. Beaucoup se réjouissent de cet appui et comptent relancer leurs activités champêtres. Christine Yamasamba, l'une des bénéficiaires de Ngreva.
Nous remercions le CICR qui nous a dotés en semences. Cela va nous permettre de cultiver et trouver quelque chose pour nous prendre en charge et nos enfants après ce retour au Berkay. Le don est fait à un moment de semis. Merci beaucoup.
Eliazar Sabatit, chef de groupe du 1er arrondissement d'Ngreva, lui est aussi satisfait de ce don.
Vraiment, c'est grande joie. Ça tombe bien au calendrier agricole de commune Ngreva. On ne peut même pas vendre ça. Toutes les populations doivent semer leurs semences pour préparer l'année prochaine et relancer aussi l'économie de notre commune.
Pour Guy Norbert Rama, maire de la commune de Ngreva, ce soutien va permettre aux retournés de cultiver davantage. Il conseille par ailleurs à ses administrés de ne pas vendre ses intrants.
Le conseil que j'ai à donner à ma population de garder bien le semence que le CICR nous a appuyé pour donner à vivre. Donc, ils ne vont pas vendre ça. Je leur fais beaucoup de conseils pour qu'ils sèment ça et puis ça va nous aider dans l'avenir. Donc, je remercie aussi le CICR. C'est grâce à lui, on était à Bandoro, c'est lui qui nous a assistés à Kagabandoro et nous sommes retournés. C'est grâce à lui encore qu'il est venu nous appuyer. Donc je remercie beaucoup le CICR.
Ce don de la sous-délégation CICR Kagabandoro en faveur des retournés de 9 villages constituant la commune d'Ingrivaille n'est pas la première. Jean-Pierre Ngarasuma, Kagabandoro, Radio Ndekeluka.
Et puis Claire, l'énergie centrafricaine entend améliorer davantage ses installations pour plus de fourniture d'électricité aux usagers.
Effectivement, bienvenue. Avec le soutien de la Banque mondiale, elle a lancé hier à Boali les travaux de remplacement de 4 générateurs de la centrale hydroélectrique de Boali 1. Un projet d'amélioration des services d'eau et d'électricité Passel pour réduire les délestages dans la ville de Bangui. Maxime Joël Alaï a effectué le déplacement de Boali. Reportage.
Le constat de l'ENERCA démontre que les 4 générateurs en voie de remplacement se trouvent déjà dans un état de vétusté avancé. Cette situation freine le bon fonctionnement du site de Boali 1 pour fournir de l'énergie à la population. Rufin Binam Beltungu, représentant du ministre de l'énergie et de l'hydraulique.
Boali 1 était la première installation électrique de notre pays. Ça a été construit de 1953 successivement. Il y a eu installation des nouveaux groupes jusqu'en 1909. Et ces équipements avaient connu plusieurs travaux, plusieurs réhabilitations de 1982 jusqu'en 2019. Mais particulièrement pour les alternateurs, les experts avaient constaté qu'il y avait des problèmes dessus et qu'il fallait très rapidement mobiliser des ressources pour pouvoir les remplacer. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement a pu mobiliser auprès de la Banque mondiale un financement pour ces travaux.
Ces travaux de remplacement vont durer 3 à 5 mois et auront des répercussions dans les ménages à Bangui. Le ministre intérimaire de l'énergie appelle la population à plus de patience.
Et pendant ce temps, il y aura un déficit d'électricité. Certainement, le délestage va être un peu assez important. C'est pour cela que nous en avons appelé à la prise de conscience de tout un chacun, surtout les consommateurs, la population. Parce que quand il y a déficit de l'électricité, les gens ont tendance à faire des actes de vandalisme sur les équipements de l'ENERCA. Donc, nous en appelons à une prise de conscience et à un peu de patience. Certainement, pendant ce temps, les travaux aussi vers Sakai pourront soulager un peu la population dans ce cas de figure.
Selon les techniciens de l'ENERCA, la capacité de l'électricité connaîtra une augmentation de 10 MW supplémentaires et les générateurs auront une durée de vie de 35 ans. Un projet mis en œuvre par l'entreprise chinoise HNAC CGGC avec le soutien financier de la Banque mondiale estimé à plus de 500 millions de francs CFA. Maxime Joël Lalaï, de retour de Boali, Radio Ndekeluka.
Dans la suite de ce journal, des femmes mettent en valeur leur savoir-faire à Bangui.
Sur initiative du programme des Nations Unies pour le développement, il a présenté vendredi dernier des produits de leur réalisation. Cette exposition vente est couplée avec des débats sur l'autonomisation de la femme. Reportage de Prudence Gisèle Huguet.
Que des femmes, derrière leurs expositions, des articles et produits de leurs innovations. Plus de 20 jeunes filles de l'ONG INA ont produit de jus à base de fruits. Stéphanie Mbombaté est leur coordonnatrice.
Nous faisons de la transformation bio, à savoir les purées de piment, des confitures et des sirops de citron et d'orange faites localement ici à Bangui. Nous pressons le citron à main levée et la manière industrielle, nous utilisons une broyeuse pour faire de la confiserie.
À côté, des jeunes filles du lycée technique de Bangui présentent le résultat de leur génie. Devant le défi de protéger la forêt et l'insuffisance de l'électricité, elles pensent à l'énergie solaire pour faire la cuisson. Grâce Dorcas Delmas, présidente des femmes émergentes de Centrafrique, nous présente ici un four solaire.
Les cuiseurs solaires, qui veut dire four solaire, à base des matériels, du menuiserie, des tôles, des bois, des vitres et des contreplaqués. Cette production d'énergie pour la cuisine, on peut également cuire les aliments frais à base du soleil. On a appris à former d'autres femmes.
Devant ces réalisations, Sidi Diawara, conseiller technique du projet PAPEC du programme des Nations Unies pour le développement, pense qu'il est primordial de soutenir les femmes pour le développement.
Le développement de ces pays, comme de tous les autres pays, passe forcément par les femmes. Ça passe par la promotion de leurs droits, à l'éducation, à la santé, au logement, à un travail décent, à l'accès à la terre pour pouvoir produire et vendre. Sans la promotion de tous ces droits et sans l'implication des femmes elles-mêmes, il n'y aura pas de développement pour ces pays.
Des femmes tentent aujourd'hui de relever le défi de la parité. Ce talon doit être renforcé par des appuis multiformes.
Prudence Gisèle Huguet sur Radio Ndekeluka.
Le projet d'un cimetière moderne à Bangui, encore confronté à la résistance de certains occupants traditionnels.
La mairie de Bangui envisage d'élimiter un cimetière de plus de 270 hectares dans le secteur de Sakai, dans la commune de Bimbo 3. Devant la réticence de ces occupants traditionnels, elle a rencontré jeudi et vendredi des autorités locales pour les sensibiliser à convaincre ces occupants afin de libérer les lieux. Alexia Félix Yangbandi.
Cette réunion a permis aux autorités locales de Bimbo de comprendre l'importance d'un cimetière dans la ville. Valérie Dondessa Yalanza, conseillère maire du secteur Sakai, apprécie ce nouveau projet.
Je suis très heureuse. Je veux que ce cimetière soit construit pour que la population de Bimbo 3 ait quand même la paix. Parce que pour le moment là, l'inhumation se fait à côté de la maison, dans leur champ. Alors je demande à la population de Bimbo 3 d'accepter précisément... notables, chefs de groupe du quartier, village, de sensibiliser leur population que c'est pour créer un cimetière pour tout le monde.
Depuis des décennies, la ville de Bangui ne dispose pas d'un cimetière moderne. Certaines familles sont obligées d'inhumer leurs parents dans les cimetières privés et des musulmans, ce qui n'est pas possible pour Moussa Ibrahim, notable dans le 3e arrondissement.
Nous, on demande la volonté politique pour que les sites soient opérationnels, pour que Bangui trouve un cimetière digne de son nom pour la première fois. Parce que si vous allez sur les sites du cimetière, dites cimetière musulman qui se trouve au niveau des Boeing, vraiment, il y a des profanations de tombes, les rites ne sont pas respectés.
Edinga Naonda, conseiller municipal du 2e arrondissement et président du conseil de sécurité urbaine à la mairie de Bangui, explique la motivation de la délimitation de ce nouveau cimetière.
Après un état de lieu, nous avons constaté qu'il n'y a plus de cimetière à Bangui. Le ministère de l'Urbanisme qui a mis à la disposition de la mairie de Bangui deux arrêtés. Alors ces arrêtés vont permettre à cette équipe de descendre sur le terrain et identifier ces parcelles, voir les limites et disponibiliser, soit nettoyer et voir comment on peut organiser le cortège, l'adressage, tout ça. C'est une grande organisation.
Les autorités qui affirment avoir compris l'importance d'un cimetière dans une ville promettent sensibiliser les occupants traditionnels à accepter ce projet. Un défi pour la réussite du dit projet.
À l'international, le second tour de l'élection présidentielle en France se déroule actuellement.
Les bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin. Les Français doivent départager Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour savoir qui dirigera le pays pour les 5 prochaines années. Plus de 48 millions de Français sont inscrits sur les listes électorales jusqu'à la mi-journée. Le taux de participation est de 26,41%. Les bureaux de vote fermeront pour la plupart à 19h. Du football, les matchs en retard des 19e et 21e journées du championnat de la Ligue de Bangui en première division se poursuivent au stade Barthélemy Boganda.
À 15h, Espoir Club de Bégo affronte les Anges de Fatima, mais bien avant cette rencontre actuellement, FG joue contre Real Comboni. Hier, Betenestar a eu raison de Assede Gobongo 5-2. Le duel entre Olympique Real de Bangui et le stade centrafricain SCAF a tourné en faveur de l'Olympique 1-0. But signé Sylvestre Koko. Kassa à la 32e minute. Dieudonné Mongolobao, directeur technique des Verts et Noirs, se réjouit de cette victoire.
Dans ce domaine, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est le travail. Même vous allez côtoyer les grands joueurs du monde. Par exemple, je citerai Eto. Il a toujours l'habitude de dire que c'est le travail qui paye. Donc, nous avons mis nos poulains ardemment au travail et puis voir le résultat sur le terrain ici. Nous sommes dans la course. Si aujourd'hui, on peut grappiller 3 points, ça ne peut qu'être une bonne chose. Parce que nous avançons pour sortir champion. Nous sommes déjà à la porte d'entrée. Il est révolu dans notre camp d'avoir le résultat négatif. C'est-à-dire, on joue, c'est pour avoir le sacre et puis sortir avec le championnat de très bonne humeur.
Lionel Benissanga, milieu de terrain de SCAF, reconnaît la défaite de son club.
C'est comme ça, un match de football, ça arrive de gagner, deux fois de perdre. On était venu gagner, mais bon voilà, le résultat choisit son camp et on félicite l'équipe adverse de sa victoire. À nos supporters, on leur dit vraiment merci. Merci parce qu'ils ont toujours été là pour nous, ils nous ont soutenus jusqu'à la fin. Quand on était dans l'air du jeu, ils ont crié, ils nous ont encouragés, mais à la fin, ça n'a pas marché. On leur dit vraiment merci et merci pour leur soutien et qu'ils nous excusent parce qu'on n'a pas pu leur donner le résultat qu'il fallait. Aujourd'hui, nous sommes tombés et c'est parce qu'il y avait une erreur de notre côté. On va rentrer, on va travailler, on va essayer de corriger ce qui n'avait pas marché et essayer de donner le plus la prochaine fois afin de donner un peu à jouer à nos supporters et à nous-mêmes.
Parlons maintenant du football des vétérans. La rentrée sportive du COVEFOC a eu lieu ce matin sur le terrain Maya Maya dans le 6e arrondissement de Bangui. La zone A constituée des Askangba de Pétévo, de Pokobak et de Bimbourt a organisé ce challenge des vétérans qui a regroupé des centaines d'anciens footballeurs.
Du football à l'international, bienvenue. Yassine Idriss Diallo a été élu hier président de la Fédération ivoirienne de football.
Il a obtenu 63 voix face à son rival Souari Diabaté, 61 voix. L'ancien capitaine de l'équipe nationale Didier Drogba a été éliminé au premier tour avec 21 voix. Yassine Idriss Diallo succède à Augustin Sidi Diallo depuis 4 années et est mis à la tête de la Fédération ivoirienne de football.
Du basketball pour en finir, des matchs du championnat de la Ligue de Bangui se poursuivent au Palais des Sports.
À 16h, AS Marzanga joue contre AS Plateau. Hier, Itrésor a battu Béafrica 71 à 59.
Et c'est la fin de cette édition sur Radio Ndekeluka. Merci à vous de l'avoir suivi.